apprenez à reconnaître les oiseaux dans votre jardin, dans un parc public ou tout simplement depuis votre balcon. En savoir plus sur les oiseaux des jardins et comment les accueillir. Bienvenue aux oiseaux des jardins sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM avec notre invité Damien Drillet, sartois passionné par nos amis à plumes. Monsieur Drillet, bonjour.
Bonjour.
Il me semble qu'aujourd'hui nous vous recevons non pas pour parler d'une espèce d'oiseau spécifique, mais pour parler de leur vocalisation.
Oui, avec les couleurs du plumage et les attitudes, les sons émis par les oiseaux sont un outil de communication. C'est leur langage où il faut distinguer le chant des cris. L'oiseau babille, chante, gazouille, jabote, piaille, piaule, ramage, zinzinule, jacasse, craille. Dans nos régions, la plupart des espèces chantent. Les espèces qui ne chantent jamais, comme les cigognes, font plutôt exception. Chaque population dispose de ses chants propres. Une zone géographique peut se caractériser par son dialecte local, son patois. Chaque individu a sa propre particularité vocale, son accent. Par exemple, le goéland breton aura du mal à comprendre l'accent du goéland marseillais.
Lors de nos précédents échanges, vous faites la distinction entre chant et cri, mais quelles sont les différences et quelles en sont leurs fonctions ?
Alors, commençons par le chant. Le chant est une série de sons plus ou moins longues et complexes. Comme en musique, les chants des oiseaux sont constitués de phrases, de vibrato, de staccato. On parle alors de trille, de gazouillis, de sifflement. Les vocalises les plus complexes servent toujours aux préludes amoureux. Ce sont les mâles qui, en général, ont le chant le plus complexe pour séduire les femelles ou marquer leur territoire. Le chant est donc à la fois incitatif envers les femelles et répulsif contre les autres mâles. Les oiseaux chantent le plus souvent au printemps, mais les espèces qui élèvent plusieurs couvées par saison chantent entre chaque couvée. Enfin, certaines espèces peuvent chanter en duo. Ainsi, les oiseaux possèdent un répertoire de chants avec un chant précis pour chaque situation. Les cris. Alors, les cris sont une suite d'un même son, d'une même syllabe. Il y a le cri d'alarme en cas de menace, de danger, de l'arrivée d'un prédateur. Ce cri peut être éventuellement reconnu par d'autres espèces, comme le jet, qui peut crier et prévenir tout le monde à l'approche de l'épervier. On appelle d'ailleurs le jet le guetteur de la forêt. Le cri peut être aussi un simple avertissement, la manifestation d'une inquiétude en présence d'un humain. Par exemple, dans nos jardins, on peut souvent entendre en notre présence le tac-tac-tac répété du troglodyte, de la fauvette ou du rouge-gorge dans l'ail. Il y a aussi le piaillement bref des oisillons qui appellent leurs parents et réclament la béquée. Le parent peut lui aussi émettre un cri particulier lorsqu'il arrive au nid pour prévenir ses petits. Enfin, il y a le cri de contact qui sert à la cohésion des groupes pour les passereaux qui se rassemblent en ronde en automne et en hiver, par exemple. C'est le cas des mésanges et des fauvettes.
Afin de réaliser ces chants et cris, les oiseaux utilisent trois organes que sont bien sûr le syrinx, le cerveau, mais également l'oreille.
Oui, l'organe qui produit le son, c'est le syrinx, qui se situe au fond de la trachée, et donc qui permet d'émettre des vocalises. Contrairement aux mammifères, chez qui le larynx se situe au-dessus de la trachée, le syrinx se trouve à la fin de la trachée au niveau de sa bifurcation. Il est constitué d'une structure cartilagineuse et de muscles qui fait vibrer une membrane devant deux cavités appelées pavillons et servent de caisse de résonance. Chez les canards, le cartilage est surmonté d'un renflement que l'on appelle tambour ou bulle du syrinx, et qui permet d'amplifier les sons. Chez certaines espèces, les deux pavillons peuvent ne pas vibrer à la même fréquence, de façon à produire une note différente. Pour d'autres encore, les pavillons sont absents. Les syrinx sont donc plus ou moins sophistiqués selon les espèces et selon les sexes. Il est souvent plus développé chez les mâles, plus apte à chanter. Quelques exemples. Le cygne chanteur et la grue ont une trachée très allongée qui sert de caisse de résonance. Chez les vautours, les autruches et les cigognes, le syrinx est peu développé, voire absent. Dans les massifs forestiers, l'engoulevent d'Europe, lui, a un chant continu de plusieurs minutes car ses micro-inspirations sont inaudibles à l'oreille humaine. Le cerveau intervient aussi dans la vocalise. Trois ordres d'oiseaux ont la capacité d'apprendre les vocalises. Ce sont les oiseaux-mouches, les colibris, les passereaux de nos jardins, appelés passereaux oscines, et les perroquets-perruches. Et les scientifiques ont constaté que chez ces trois ordres d'oiseaux, les sept mêmes aires de leur cerveau sont utilisées pour le chant, et que ces aires sont absentes chez les oiseaux non chanteurs. Les oisillons apprennent, comme les enfants, à parler. Ils doivent mémoriser les sons et les reproduire dans un bon contexte. Ils doivent donc écouter, imiter les vocalisations des adultes. Ils émettent d'abord un babille, puis un chant rudimentaire, et enfin le chant définitif. Mais ce chant définitif va s'affiner avec l'âge. Il y a donc un apprentissage continu selon les espèces. En revanche, les gallinacées, que sont les poules, les faisans, les cailles, ne reproduisent les sons que d'une façon innée. Chez eux, il n'y a donc aucun apprentissage. Le dernier organe nécessaire à la vocalisation, ce sont les oreilles qui permettent l'audition. L'oiseau ne possède aucun organe externe, mais des simples orifices pour une audition extrêmement fine chez certaines espèces. Certains individus reconnaissent la signature vocale d'autres membres, même après plusieurs mois, comme les couples de manchots qui se reconnaissent parmi des centaines d'individus sur la banquise. La capacité de reconnaissance auditive est donc essentielle à l'accouplement, à la reproduction et à la survie des oiseaux.
Certains oiseaux sont également capables d'imitation.
Effectivement, il y a les trois groupes d'oiseaux évoqués précédemment et capables d'apprentissage sont capables aussi d'imiter d'autres oiseaux ou d'autres sons. Par exemple, le merle noir peut imiter la sirène de ton des pompiers s'il vit à côté d'une caserne. Il peut aussi reprendre les premières notes d'une symphonie de Beethoven s'il niche dans le jardin d'un mélomane. Le loriot, lui, est capable d'imiter le miaulement du chat. Le jet imite la buse et la chouette-ulotte. Les tourneaux sans sonner imitent le faucon cresserelle et le loriot. Mais le champion toute catégorie de l'imitation, c'est l'oiseau lyre qui vit dans les forêts tropicales et qui imite les sons humains à sa portée, c'est-à-dire, par exemple, la tronçonneuse des bûcherons ou le déclenchement de l'appareil photo d'un naturaliste. Dernier exemple, la rousserolle verderolle n'a pas de chant propre. Elle rapporte de ses migrations des chants d'oiseaux exotiques et les reproduit. Ses vocalises sont donc 100% imitatives. Les migrations sont donc des facteurs d'évolution de la vocalisation et d'échange, mais ceci est une autre histoire.
Damien, je vous remercie, je vous retrouve très vite afin d'échanger à nouveau sur nos amis à plumes.
Bon concert à tous.